Aujourd'hui, je vais vous lire les entretiens de 1957-58 du 29 octobre 1958. Alors, ça commence par l'évolution spirituelle, ce que dit Schrobindo. Il est vrai que la tendance spirituelle a été de regarder au-delà de la vie plutôt que vers la vie. Il est vrai aussi que le changement spirituel a été individuel et non collectif. Il y a eu des résultats heureux dans l'individu, mais il n'a pas réussi ou n'a pas pu avoir des effets indirects dans la masse humaine. L'évolution spirituelle de la nature est encore en cours, incomplète. On pourrait presque dire qu'elle ne fait que commencer. Et sa préoccupation principale a été d'assurer, de développer la base d'une conscience et d'une connaissance spirituelle et de créer un fondement ou une formation de plus en plus vaste vers la vision de cela qui est éternel dans la vérité de l'esprit. C'est seulement quand, par l'individu, la nature aura complètement affermi cette évolution et cette formation intensive qu'on peut s'attendre à quelque chose de radical ayant un caractère d'expansion ou de diffusion dynamique ou qu'un essai de la vie spirituelle collective pourra réussir à devenir permanent. Alors, je répète parce que c'est très important, ça concerne aussi Auroville, ou qu'un essai de vie spirituelle collective pourra réussir à devenir permanent. De tels essais ont été bien faits, mais ils ont surtout servi de terrain de protection pour une croissance spirituelle individuelle. Car jusque-là, l'individu doit se préoccuper de son propre problème, qui est de se changer entièrement son mental et sa vie en conformité avec la vérité de l'esprit qu'il a atteint. Alors, je répète la phrase. Car jusque-là, l'individu doit se préoccuper de son propre problème, qui est de changer entièrement son mental et sa vie en conformité avec la vérité de l'esprit qu'il a atteinte ou qu'il est en train d'atteindre dans sa connaissance et son être intérieur. Toute tentative prématurée de vie spirituelle collective sur une grande échelle s'expose à être viciée par une connaissance spirituelle incomplète dans ses aspects dynamiques, par les imperfections des chercheurs individuels ou par les instructions de la connaissance mentale, vitale et physique ordinaire, qui s'empare de la vérité et la mécanise, l'obscurcit ou la corrompt. L'intelligence mentale et son pouvoir principal, la raison, ne peuvent transformer le principe de la vie humaine et son caractère obstiné. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est d'effectuer des mécanisations, des manipulations, des formulations et des constructions variées. Et le mental non plus, dans son ensemble, même spiritualisé, n'est pas davantage capable d'opérer cette transformation. La spiritualité libère et illumine l'être intérieur. Elle aide le mental à communiquer avec ce qui lui est supérieur. Elle l'aide même à s'évader de lui-même. Elle peut, par l'influence intérieure, purifiée et élever la nature extérieure de certains êtres humains individuels. Mais tant qu'il lui faut travailler dans la masse humaine, avec le mental comme instrument, elle ne peut exercer qu'une influence sur la vie terrestre, non amener la transformation de cette vie. C'est pour cette raison que le mental spirituel a le plus souvent tendance à se satisfaire d'une telle influence et en général à chercher l'accomplissement ailleurs, dans l'autre vie, ou abandonner totalement tout effort dirigé vers le dehors et se concentrer seulement sur la perfection ou le salut spirituel individuel. Il faut des instruments qui possèdent un dynamisme supérieur à celui du mental pour transformer totalement unie la nature créée par l'ignorance. Alors, c'est un extrait de L'évolution spirituelle de Sri Aurobindo, page 75-77. Alors, la question que on pose à Mère, « Douce Mère, que veux-tu dire? La spiritualité aide le mental à s'évader de lui-même. Tant que le mental est convaincu qu'il est le sommet de la conscience humaine, qu'il n'y a rien au-delà et au-dessus de lui, il prend son fonctionnement pour un fonctionnement parfait et il se satisfait pleinement des progrès qu'il peut faire dans les limites de ce fonctionnement et qu'une augmentation de clarté, de précision, de complexité, de souplesse, de plasticité dans ses mouvements. Il a toujours une tendance spontanée à être très satisfait de lui-même et de ce qu'il peut faire, s'il n'y a pas une force plus grande que la sienne, une puissance plus haute qui lui apprenne d'une façon irréfutable ses limitations, son indigence. Jamais il ne fera d'effort pour en sortir par la vraie porte de sortie, la libération dans une manière d'être plus haute et plus vraie. Quand la force spirituelle peut agir, quand elle commence à avoir une influence, elle secoue cette satisfaction de soi du mental. Et par une pression continue, elle commence à lui faire sentir qu'au-delà de lui, il y a quelque chose de plus haut et de plus vrai. Alors, un petit peu de cette vanité qui lui est propre cède sous cette influence. Et dès qu'il se rend compte qu'il est limité, ignorant, incapable de toucher la vérité vraie, alors commence la libération et la possibilité de s'ouvrir à quelque chose qui est au-delà. Mais il faut qu'il sente la puissance, la beauté, la force de cet au-delà et qu'il s'y soumette. Il faut qu'il puisse percevoir son incapacité, ses limitations, en présence de quelque chose qui lui est supérieur. Autrement, comment pourrait-il jamais sentir son infirmité? Il suffit parfois d'un seul contact, quelque chose qui fait une petite déchirure dans ce contentement de soi. Alors le désir d'aller au-delà, le besoin d'une lumière plus pure s'éveille. Et c'est avec cet éveil que vient l'aspiration. Et avec l'aspiration commence la conquête de la libération. Et un jour, on s'épanouit en faisant éclater ses limites dans la lumière infinie. S'il n'y avait pas cette pression constante, à la fois du dedans et du dehors, d'en haut et de la profondeur la plus grande, jamais rien ne changerait. Mais avec cela, combien de temps il faut pour que les choses changent? Quelle résistance obstinée dans cette nature inférieure? Quel attachement aveugle et stupide aux manières animales de l'être? Quel refus de se libérer? Il y a dans toute la manifestation une grâce infinie qui travaille constamment à faire sortir le monde de la misère, de l'obscurité et de sa stupidité dans lesquelles il se trouve. De tout temps, cette grâce est à l'œuvre, sans jamais cesser son effort. Et combien de millénaires ont été nécessaires pour que ce monde s'éveille à la nécessité de quelque chose de plus vrai, de plus beau et de plus grand. Chacun peut mesurer la résistance qu'il rencontre dans son être, la résistance formidable que le monde oppose à l'œuvre de la grâce. Et c'est seulement quand on comprend que toutes les choses extérieures, toutes les constructions mentales, tous les efforts matériels sont vains, inutiles, s'ils ne sont pas entièrement consacrés à cette lumière et à cette force d'en haut, avec cette vérité qui essaye de s'exprimer. Que l'on est prêt au progrès décisif. Ainsi, la seule attitude vraiment efficace est un don parfait, total, fervent de son être à cela qui est au-dessus de nous et qui a le seul pouvoir de tout changer. Quand on s'ouvre à l'esprit au-dedans de soi, il vous donne un premier avant-goût de cette vie supérieure qui seule vaut d'être vécue. Alors vient la volonté de s'élever vers cela, l'espoir d'y atteindre, la certitude que c'est possible, et finalement la force de faire l'effort nécessaire et la résolution d'aller jusqu'au bout. D'abord, il faut s'éveiller, ensuite, il faut conquérir. Le 5 novembre 1958, je veux vous le lire aussi parce que c'est la continuité de l'évolution spirituelle. La vérité spirituelle est une vérité de l'esprit, non une vérité de l'intellect. Non un théorème mécanique et une formule logique. C'est une vérité de l'infini, une dans une diversité infinie, et elle peut revêtir une variété infinie d'aspects et de formes. Dans l'évolution spirituelle, il est inévitable que l'on doive atteindre la vérité unique par de multiples chemins et la saisir sous de multiples aspects. Cette multiplicité est le signe que l'âme s'approche d'une réalité vivante, non d'une abstraction ou d'une image artificielle des choses qui peuvent se pétrifier et se changer en formule rigide ou morte. La conception intellectuelle, dure et logique, qui veut que la vérité soit une idée unique, valable pour tous. Une idée ou un système d'idées qui élimine toutes les autres idées ou tous les autres systèmes. Ou un fait limité unique, un unique assemblage de faits que tous doivent reconnaître et la transcription abusive d'une vérité limitée du domaine physique au domaine beaucoup plus complexe et plus plastique de la vie, du mental et de l'esprit. Dans l'évolution spirituelle, il doit y avoir nécessairement de nombreuses étapes, et chaque étape, une grande variété dans la formation individuelle de l'être, de la conscience, de la vie, du tempérament, des idées et du caractère. La nature de l'instrument mental et la nécessité d'avoir affaire à la vie doivent d'elles-mêmes créer une variété infinie suivant le stade de développement et d'individualité du chercheur. Mais même sans cela, le domaine de la réalisation et de l'expression spirituelle pure lui-même ne doit pas être nécessairement une blancheur unique et monotone. Il peut y avoir une grande diversité dans l'unité fondamentale. Le moi suprême est un, mais les âmes du moi sont multiples, et telle la formation de la nature par l'âme, telle son expression spirituelle. La diversité dans l'unité est la loi de la manifestation. L'unification et l'intégration supramentales doivent harmoniser ces diversités. Mais l'intention de l'esprit dans la nature n'est pas de les abolir. Mère répond à cela. Au point de vue du développement individuel et pour nous qui sont encore au commencement du chemin, savoir se taire devant ce que l'on ne comprend pas est l'une des choses qui aiderait le plus au progrès. Savoir se taire non seulement extérieurement, ne pas prononcer des paroles, mais savoir se taire au-dedans, que le mental n'affirme pas son ignorance avec outrecuidance comme il le fait toujours, qu'il n'essaye pas de comprendre avec un instrument qui est incapable de comprendre, qu'il connaisse et qu'il sache son infirmité et qu'il s'ouvre simplement, tranquillement, en attendant que le moment soit venu pour lui d'avoir la lumière, parce que c'est seulement la lumière vraie, qui peut lui donner la compréhension. Ce n'est pas tout ce qu'il aura appris, ni tout ce qu'il l'aura observé, ni toute la soi-disant expérience qu'il a de la vie. C'est quelque chose d'autre qui le dépasse complètement. Et avant que ce quelque chose d'autre, qui est l'expression de la grâce, ne se manifeste en lui, si très tranquillement, très modestement il se tait et n'essaye ni de comprendre, ni surtout de juger, les choses iraient beaucoup plus vite. Le bruit que les mots, que toutes les idées font dans la tête est un bruit assourdissant qui vous empêche d'entendre la vérité si elle veut se manifester. Apprendre à être tranquille et silencieux. Quand on a un problème à résoudre, au lieu de remuer dans sa tête toutes les possibilités, toutes les conséquences, toutes les choses possibles qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. Si l'on reste tranquille avec si possible une inspiration de bonne volonté, un besoin de bonne volonté, très vite la solution vient. Et comme on est silencieux, on est capable de l'entendre. Quand vous êtes pris dans une difficulté, essayez la méthode. Au lieu de vous agiter, de remuer toutes ces idées, de chercher activement des solutions, de vous inquiéter, de vous tourmenter, de courir de ci, de là dans votre tête, je ne dis pas extérieurement, parce qu'extérieurement, on a assez de bon sens pour ne pas le faire probablement, mais intérieurement dans la tête, restez tranquille. Et suivant votre nature, avec une ardeur ou une paix, une intensité ou un élargissement, ou tout cela à la fois, implorez la lumière et attendre qu'elle vienne. Le chemin sera considérablement raccourci. Mère, comment trouver la vraie étape et le vrai tournant de son développement? Comment la trouver? Il faut la chercher. Il faut la vouloir avec persistance. Il faut que tout soit la chose importante. Ce qui arrive le plus souvent lorsqu'on fait un effort intérieur nécessaire pour découvrir son âme, s'unir à elle et lui permettre de gouverner la vie, c'est une sorte d'enchantement merveilleux de cette découverte qui fait que le premier instinct est de dire « Maintenant, j'ai ce qu'il me faut. J'ai trouvé une joie infinie » et ne plus se préoccuper d'autre chose. C'est en fait ce qui est arrivé à presque tous ceux qui ont fait la découverte. Il y en a même qui ont érigé cette expérience en principe de réalisation et ont dit « Quand vous avez fait ça, tout est fait, qu'il n'y a plus rien à faire. Vous êtes arrivé au but et au bout du chemin. » Au fond, il faut un grand courage pour aller plus loin. Il faut que cette âme que l'on découvre soit une âme de guerrier intrépide, qui ne se satisfasse point de sa propre joie intérieure en se consolant du malheur des autres par une idée que tôt ou tard, tout le monde y arrivera et que l'effort que l'on fait, il est bon que les autres le fassent, ou au mieux que de cet état de sagesse intérieure, on peut, avec une grande bienveillance et une profonde compassion, aider les autres à y parvenir, et que lorsque tout le monde en sera là, eh bien, ce sera la fin du monde, et c'est tant mieux pour ceux qui n'aiment pas souffrir. Mais il y a un mais. Est-on bien sûr que tel a été le but de l'intention du Suprême quand il s'est manifesté? Toute la création, toute la manifestation apparaît comme au mieux une très mauvaise plaisanterie, si c'était pour en arriver là. Pourquoi commencer si c'est pour en sortir? À quoi sert-il d'avoir tant lutté, tant souffert, d'avoir créé quelque chose qui, au moins dans son apparence extérieure, est si tragique et si dramatique? Et si simplement, pour apprendre à en sortir, il aurait mieux valu ne pas commencer. Mais si l'on va au fond des choses, si l'on est dépouillé non seulement de tout égoïsme, mais aussi de l'ego, on se donne totalement, sans réserve, de cette façon si complète et si désintéressée qui vous rend capable de connaître le dessein du Seigneur suprême. Alors on sait que ce n'est pas une mauvaise plaisanterie, que ce n'est pas un chemin tortueux pour en revenir, un peu meurtri au point de départ. C'est tout le contraire pour apprendre à la création totale, la joie d'être, la beauté d'être, la grandeur d'être, la majesté d'une vie sublime et le développement perpétuel, perpétuellement progressif de cette joie, de cette beauté et de cette grandeur. Alors tout a un sens. Alors on n'a plus de regrets d'avoir lutté, d'avoir tant souffert. On n'a plus que cet enthousiasme de réaliser le but divin. Et on se précipite dans la réalisation avec la certitude du but de la victoire. Mais pour cela, il faut cesser d'être égoïste, d'être un être séparé qui se replie sur lui-même et qui se coupe de l'origine suprême. C'est cela qu'il faut faire, se dépouiller de son ego. On ne peut connaître le but véritable que par ce seul moyen. Se dépouiller de son ego, le laisser tomber là comme un vêtement inutile. Le résultat vaut les efforts qu'il faut faire. Et puis, on n'est pas tout seul sur le chemin. On est aidé. Si on a confiance, si on a seulement une seconde de ce contact avec la grâce, cette grâce merveilleuse qui vous emporte, qui vous fait courir, qui vous fait même oublier que vous avez à courir, si on a seulement une contact, une seconde, le contact avec ça, alors on peut faire tout l'effort pour ne pas oublier. Et avec la candeur d'un enfant, la simplicité d'un enfant pour lequel il n'y a pas de complications, se donner à cette grâce et la laisser faire. Ce qu'il faut, c'est de ne pas écouter ce qui résiste, ne pas croire ce qui contredit. Avoir confiance, une vraie confiance, une confiance qui fait qu'on s'abandonne sans calcul, sans marchandage. Confiance, enfin confiance, dire « fais ça pour moi, je te laisse faire ». Ça, c'est le seul moyen. Mère. Merci, Shrobindo. Merci, Mère. Et